Bonjour et bienvenue à l'antenne de Radio Ville-Marie. À l'occasion du Vendredi Saint, nous vous proposons une émission spéciale de 2 heures qui portera sur la passion et la mort de Jésus telle que vue par l'évangéliste Marc. Les textes seront lus par Violaine Paradis, animatrice de pastorale au Centre étudiant Benoît Lacroix et étudiante à l'Institut de pastorale des Dominicains. Ils seront commentés par Francine Robert, professeure à l'Institut de pastorale des Dominicains. C'est Claude Julien qui vous parle. Alors, Francine Robert, disons-le d'entrée de jeu, il y a des différences frappantes entre les 4 évangiles concernant l'approche de la passion et de la mort de Jésus. Pouvez-vous quand même nous donner quelques clés là-dessus? Il me semble que ça serait intéressant.
Oui, ça vaut la peine, d'autant plus que les gens ont l'impression que la séquence des événements étant la même, on a le même récit, 4 fois, parce qu'on écoute les événements. Alors que ce que nous avons, c'est pas le film des événements, ce sont des récits. Et la manière de raconter est différente d'un évangile à l'autre. Les évangiles et les récits de la Passion sont différents parce qu'ils sont au service d'une manière de comprendre le sens de la mort de Jésus et d'une manière même de comprendre ce qu'on appelle la christologie, c'est-à-dire chaque évangile privilégie certains aspects du mystère du Christ, disons-le comme ça, et va raconter la Passion en mettant en valeur certains aspects donc du personnage Jésus. Bon, c'est sûr que les 4 sont écrits pour des chrétiens qui croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. On pourrait dire donc que c'est du pareil au même, mais non, nous avons vraiment 4 catéchèses orientées différemment. Et on doit lire un récit de la Passion, pas seulement à partir de ses différences. Par exemple, Marc est très différent de Jean, il présente beaucoup de points communs avec Matthieu, mais c'est pas seulement dans les différences à l'intérieur d'un récit de la Passion qu'on peut réfléchir, c'est comment le récit de la Passion dans chaque évangile est éclairé par le reste de l'évangile. Par exemple, le commentaire que nous ferons ensemble, il est beaucoup influencé par le fait que dans Marc, tout au long du livre, Jésus est présenté de manière particulièrement incarnée. Il consent totalement aux limites de la condition humaine. C'est comme ça qu'il est fils de Dieu. Vous voyez?
Ce n'est pas un Jésus triomphant.
Hein? Non, pas du tout. Il n'est même pas très Seigneur, disons, comme dans Matthieu. C'est autre chose. Ce Jésus de Marc, on le reconnaît aussi dans le récit de la Passion. Et il doit nous servir de clé pour comprendre le récit de la Passion. Un autre point important sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, c'est ce que Marc fait avec les disciples. Dans tout le reste de son évangile, Marc a déjà préparé un cheminement pour le personnage des disciples. Ce personnage collectif qui est comme le miroir du lecteur va avoir de plus en plus de difficultés à comprendre et l'aboutissement de cette incompréhension, on le trouve à la Passion. On devra tenir compte de ça. Pour le dire autrement et replacer peut-être nos auditeurs face à un élément très connu de la Passion, on se prépare à arriver au moment où Jésus va dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le récit de la Passion, dans chaque évangile, il est
une montée vers ça.
Vers le moment de la mort, c'est ça. On pourrait dire une montée particulièrement dans Jean, dans Marc, on pourrait dire une descente, d'une certaine manière. Mm-hmm. On doit arriver près, je dirais, à ce moment du cri, assez surprenant, de Jésus dans Marc, assez scandaleux même. Ça va être suivi de la mort, du voile du temple qui se déchire. Le centurion dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Qu'est-ce que Marc nous dit lorsqu'il arrive à ce point focal de son évangile? Et pourquoi place-t-il à ce moment la seule confession de foi en Jésus, fils de Dieu, de tout son livre? Son livre qu'il a commencé au tout premier verset en nous disant « Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. » Personne parmi les humains ne va désigner Jésus comme fils de Dieu avant ce centurion devant Jésus mort.
C'est quand même, je vous arrête là, parce que c'est impressionnant et c'est très lourd de conséquences. Ce que vous venez de dire, si j'ai bien compris, c'est que dans l'évangile de Marc, le seul qui dit Jésus fils de Dieu, c'est un centurion romain.
Oui, au moment où Jésus est mort. On n'a pas, par exemple, la déclaration de Pierre telle que nous l'avons dans Matthieu, au moment où Jésus demande « Qui dites-vous que je suis? Mm-hmm. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
On n'a pas ça dans
Marc. On a « Tu es le Christ » ou « Tu es le Messie okay. ». Voyez.
Tu es le Messie. Et ça, dès... ça veut dire autant un Messie triomphant, oui. Politique.
Et vous m'ouvrez la porte, peut-être pour éclairer même ce à quoi nous serons attentifs dans le récit de la Passion concernant les disciples. Marc, dès le moment où Pierre va dire « Tu es le Messie », Marc introduit la première annonce de la Passion, c'est-à-dire « Et Jésus commença à leur enseigner que le Fils de l'homme serait livré, etc. » Et tout de suite, là, nous avons la réaction de Pierre qui prend Jésus à part et qui lui dit « Non, 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 ça n'arrivera pas. » Donc, les problèmes des disciples avec la Passion commencent là, vous voyez, au chapitre 8.
Chapitre 8, où est la première annonce de la Passion.
La première annonce, s'inscrit en dénégation. À la deuxième annonce de la Passion, on sera au chapitre 9, autour des versets 30, les disciples...
Ils vont rester silencieux.
Oui.
Ils veulent pas l'interroger.
Ils craignent de l'interroger, voilà. Comme lorsque nous disons en français plus courant, j'aime mieux pas poser de questions. Parce que je soupçonne déjà ce que serait la réponse et je ne veux pas l'entendre. Troisième annonce de la Passion, au chapitre 10, 31-32, cette fois, les disciples Jacques et Jean viennent d'entendre l'annonce de la Passion. Et demande à Jésus, tu sais, on aimerait ça être assis dans ta gloire, à ta gauche, à ta droite. Vous voyez, Marc nous a préparé à un éloignement progressif des disciples face à l'annonce de la Passion. Donc, on doit arriver au récit de la Passion dans Marc avec ça en tête.
Ainsi préparé. Voilà.
Le lecteur est amené au seuil de la Passion avec une sorte d'agacement devant ses disciples qui... apparaissent de plus en plus obtus, et peut-être avec une illusion chez le lecteur que lui comprend, lui ou elle comprend. Et Marc va essayer de nous amener d'une certaine manière à renoncer à certaines compréhensions, parce qu'il a autre chose à nous proposer dans ce moment de la mort de Jésus. Donc, voyez, ça nous sert un peu d'introduction générale, la réflexion que nous venons de faire, pour se dire quel est le Fils de Dieu que Marc veut nous faire rencontrer dans son récit de la Passion, qui est extrêmement différent sur ce plan-là du récit de Jean. Vous aviez raison de mentionner que les quatre sont différents. On pourrait dire, aux deux extrêmes, il y a Marc, l'incarnation et l'abaissement le plus total, et Jean, l'élévation et la glorification la plus poussée.
C'est ça.
Alors, ils sont les deux aux deux extrêmes. Donc, c'est intéressant de se dire, oui, on est le Vendredi Saint. Tous les gens qui iront en liturgie cet après-midi entendront la Passion dans l'Évangile de Jean. Nous allons plutôt réfléchir sur la Passion dans l'Évangile de Marc.
Bien, alors, fort de cette introduction, nous allons faire une pause musicale maintenant et l'étape suivante, nous allons regarder le récit de la dernière scène.
Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus leur déclara :
Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer.
Ils devinrent tout tristes et ils lui demandaient l'un après l'autre : Serait-ce moi ? Il leur répondit,
« C'est l'un des 12 qui se sert au même plat que moi. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui qui le livre. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. »
Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant,
« Prenez, ceci est mon corps. »
Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit,
« Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Nous venons donc d'entendre le récit de la dernière scène ou le repas de Jésus avec ses disciples précédé par l'annonce de la trahison.
Oui, Jésus annonce la trahison de Judas et tout de suite après le repas qu'on appelle la dernière scène, nous aurons, et nous l'entendrons tout à l'heure, deux autres annonces. Jésus va annoncer que les disciples vont l'abandonner et que Pierre va le renier. Donc, c'est comme si Marc nous donne à lire ce dernier repas de Jésus, qui est un moment de communion et de partage entre lui et les disciples. Il nous donne à le lire en le coinçant en étau entre l'annonce que tous ces disciples-là, un par derrière l'autre, vont lui faire défaut, en le livrant, en l'abandonnant, même en le reniant. Et le repas est placé là. C'est un des outils de la catéchèse d'un évangéliste, l'ordre dans lequel il place les événements. Chez Luc, par exemple, ces mêmes événements ne sont pas présentés dans le même ordre. Et je rappelle que c'est inutile de se demander dans quel ordre ça s'est passé historiquement. On doit plutôt faire notre profit de l'ordre qui nous est donné comme étant une catéchèse. C'est quoi cette catéchèse? Mais quand on voit le repas, il y a chez Jésus ce désir profond de communion avec les disciples. Et les disciples nous sont quand même présentés comme manquant à leur communion avec Jésus. Bon, d'abord, donc, cette annonce de la trahison pourrait se rappeler que Judas est l'un des 12 et qu'à ce titre, il fait partie des disciples qui, depuis le chapitre 8 avec Pierre, ont de la difficulté quand Jésus annonce la passion. On a tendance à faire de Judas un cas à part.
C'est presque le bouc émissaire.
C'est ça, le coupable désigné.
Et ça nous donne bonne conscience.
Et ça nous donne bonne conscience parce que nous n'avons rien à voir avec lui. Et donc, les responsables de la passion, ce sont les chefs religieux juifs et Judas. Et de l'autre côté, ces pauvres disciples un peu peureux, un peu dépassés, et Pierre qui renie, là, on peut leur ressembler un petit peu. Donc, on fait deux catégories de protagonistes. Chez Marc, ça ne se passe pas comme ça. Chez Luc et Matthieu, non plus. Nous sommes bien invités à ne pas oublier que Judas est l'un des 12. Et d'ailleurs, il n'y a pas chez Marc ni chez Matthieu cette mention de Satan qui entre en Judas. Donc, Judas n'est pas désigné dans une classe à part. Cette manière radicale chez lui de refuser un Messie qui va vers la mort peut être, oui, la manière de chacun des disciples et la nôtre. Et c'est pourquoi Marc va préciser, dès que Jésus annonce la trahison, que chacun se met à poser la question, « Serait-ce moi, Seigneur ?» cette insistance-là devrait nous avertir que pour Marc, le lecteur peut aussi se poser la question « Serait-ce moi, Seigneur? » Et donc, ne pas faire de Judas une sorte d'outil tellement noirci qu'on ne peut plus rien avoir en commun avec lui. Ouais, on doit plutôt connecter, je dirais, sur notre propre potentialité, disons, à refuser un Messie qui choisit le chemin de la mort.
Et en ce sens-là, la réponse de Jésus est intéressante. Hein. C'est l'un des 12 qui se sert au même plat que moi. Judas n'est pas mentionné.
Pas du tout.
À ma connaissance, Judas n'a pas été le seul à mettre la main dans le plat.
Non,
quoi.
Bien sûr. Et je dirais que ça, c'est typique de Marc, de montrer que de toute manière, Judas fait partie des disciples qui vont pousser à l'extrême leur incompréhension et leur refus des choix de Jésus. Bon, il y a une phrase assez dure, le Fils de l'homme s'en va, mais malheureux celui qui le livre, hein, mieux aurait valu pour lui qu'il ne soit pas né. Le malheureux n'est pas une parole de malédiction, c'est bien traduit ici dans le lectionnaire, malheureux. C'est une sorte d'exclamation, hein, le texte qui est là, qu'on pourrait prononcer « why ». Ça s'écrit O-U-A-I.
Ça, c'est en grec, ça.
Oui. Okay.
On pourrait dire en français comme hélas.
C'est ça.
Hélas pour lui.
C'est une exclamation de chagrin.
C'est ça. C'est, voilà. Et non une condamnation.
Voilà, exactement. Et, voilà. Hélas pour lui. Mm-hmm. Hélas pour ce qui l'amène à prendre une telle décision. Peut-être bien hélas pour nous, dans la mesure où nous pourrions avoir la capacité de rejeter un tel visage de Dieu aussi. Bon, l'homme, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Ici, j'aimerais faire une autre mise en garde. Comme il est écrit à son sujet, bon, ça donne l'impression que le programme est déjà tout tracé. Dieu avait déjà ses plans. Ça devait se passer ainsi, étape par étape. Il y a l'agenda de la Passion. On doit faire attention à ça. D'abord, c'est écrit nulle part. Techniquement, le Fils de l'homme, qu'ils doivent souffrir ou tout ça, l'expression « le Fils de l'homme » n'est jamais associée à ce genre de choses. C'est la réflexion chrétienne après coup qui va faire des liens entre la mort de Jésus et les Écritures. La réflexion chrétienne devra faire ces liens parce qu'elle doit tenir ensemble deux réalités qui, à première vue, sont tout à fait opposé, c'est-à-dire en Jésus, il y a une révélation de Dieu, et puis Jésus a été une victime et il s'est fait tuer au lieu d'être un puissant. Donc, ça ne va pas ensemble. Et la réflexion chrétienne doit assumer ce paradoxe, cette tension, cette contradiction de la mort de l'envoyé de Dieu, finalement.
Bon, et alors, devant ce scandale effrayant, là, il faut des outils d'interprétation.
C'est ça.
Hein? On va chercher dans notre culture religieuse, dans ce qu'on appelle, nous, l'Ancien Testament, on va tenter d'aller chercher les lumières nécessaires qui vont nous aider à interpréter.
On a besoin de vérifier si le Dieu auquel on croit, et ce Dieu-là, on le rencontre dans la Première Alliance, les premiers chrétiens ont besoin de vérifier, est-ce que ce Dieu-là est cohérent avec lui-même? Est-ce que ce qu'on découvre de ce Dieu-là dans l'événement Jésus, ça va avec ce qu'on a toujours pensé de ce Dieu-là, du visage de ce Dieu auquel on croit, ou est-ce qu'on le rencontre dans le Premier Testament, dans les Écritures? Et c'est pourquoi on doit aller dans les Écritures et essayer de mettre ensemble ce qui, à première vue, n'allait pas ensemble. Et qu'est-ce qu'on va découvrir dans les Écritures? C'est un Dieu qui veut faire coûte que coûte alliance avec son peuple et qui donc essaie toujours de se situer, je dirais, en modalité relationnelle avec son peuple. Et d'une certaine manière, à travers les traces du Dieu tout-puissant qui semble faire ce qu'il veut et disposer de sa toute-puissance comme il l'entend, à travers ça que l'on trouve dans les Écritures, il y a aussi d'autres passages où on voit que Dieu, à cause de sa volonté de faire alliance, une alliance d'amour, se retrouve parfois aussi dans l'Ancien Testament en position de vulnérabilité
et de faiblesse.
Et de faiblesse, voilà. Et que c'est cet aspect-là qui va se retrouver manifesté de façon privilégiée dans l'événement Jésus et particulièrement dans la Passion. Donc, on aura l'occasion d'étoffer davantage cette piste-là. mais on peut déjà la pressentir dans le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, sans chercher donc une phrase particulière, mais les chrétiens peuvent dire ça parce qu'ils pouvaient déceler déjà dans la tradition croyante des traits de Dieu qui assume cette vulnérabilité. L'amour rend vulnérable. Et on peut en trouver la trace déjà dans le Premier Testament. Alors, ce Jésus, donc, qui vient d'annoncer que l'un des siens le trahira, prend son dernier repas avec ses disciples sans une once de reproche. Hein. Il partage ce repas de communion. Pourquoi j'appelle ça un repas de communion? Pas parce que c'est l'expression que nous employons pour l'Eucharistie. D'ailleurs, on ne va pas entrer, si vous permettez, dans une réflexion approfondie sur l'Eucharistie. C'est pas l'objet de cette émission. Mais l'expression qui est là, et ceci est mon sang de l'Alliance, si on traduisait textuellement, cette expression-là, on la retrouve lorsque Moïse, au Sinaï, dit « Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous. » Donc, quand Jésus dit « Voici mon sang de l'Alliance », quand c'est écrit comme ça dans l'Évangile de Marc, ça peut renvoyer à cette alliance, ce sacrifice de communion qui rapproche Dieu et son peuple et qui rappelle donc cette libération. Le premier acte par lequel Dieu s'est fait connaître, c'est libérer des esclaves, en faire un peuple de gens libres. Et désormais, donc, cette liberté-là, est-ce que vous êtes intéressé à l'engager dans une relation avec moi? Si j'y insiste comme ça, c'est qu'on verra que finalement, le choix de Jésus pour se laisser tuer, plutôt que pour agir, par exemple, en tout-puissant qui impose le règne de Dieu, ça dépend exactement du même choix de Dieu. Voici, j'ai fait de vous des gens libres, maintenant encore, voulez-vous engager votre liberté dans cette alliance avec moi? Et je dois vous laisser libre de vous engager dans cette alliance. Et donc, même un Messie ou un Fils de Dieu et un Dieu lui-même ne peut pas imposer ça, puisque c'est sur la base de la liberté qu'il vient de nous donner. Alors, moi, je trouve ça très parlant que nous ayons cette parole-là à l'intérieur du récit de la Passion. « Ceci est mon sang de l'Alliance. » Il n'y a pas, comme dans Matthieu, le sang versé en expiation pour les péchés, ça n'est pas un sacrifice expiatoire dans Marc, ni dans Luc d'ailleurs. Ce qui viendra après la dernière scène, je le rappelle, c'est l'annonce que Jésus va faire sur la défection des disciples, leur abandon, le reniement de Pierre, tout ça se situant dans la suite de l'annonce de la trahison de Judas. Je vous propose d'écouter une pièce musicale un peu spéciale qui vient d'un opéra rock que peut-être certains connaissent, Jesus Christ Superstar. C'est la scène justement où les disciples chantent pendant ce dernier repas. Je veux prévenir nos auditeurs, parce que, bon, ils ont l'air un peu ivres, je dois le dire, mais je l'ai choisi justement pour cette raison. Il me semble que ça nous aide à nous pénétrer de cet élément si important dans l'Évangile de Marc, les disciples, non seulement ne comprennent pas ce qui se passe, mais n'arrivent jamais à s'ajuster à la série de choix qui conduisent Jésus vers sa passion. Et il me semble que cette manière-là de les entendre chanter nous aide à nous pénétrer de cette incompréhension des disciples que Marc utilise pour nous la renvoyer à nous-mêmes comme dans un miroir.
Look at all my trials and tribulations, sinking in a gentle pool of wine. Don't disturb me now, I can see the answers till this evening is this morning, life is fine. Always hoped that I'd be an apostle, knew that I would make it if I tried. This is my blood you drink, this is my body.